Voilà, merci. Je remercie vivement les organisateurs de m'avoir invité, les organisateurs de cette journée, de m'avoir invité pour présenter cette intervention qui s'intitule « Peut-on vraiment évaluer la qualité des politiques de formation en alphabétisation et des formations elles-mêmes ? Comment ? Quelles valeurs présupposées sont mobilisées ?» Alors, je suis vraiment désolé d'arriver si tard, et j'aurais vraiment aimé entendre les interventions précédentes, tout d'abord par intérêt, évidemment, pour les sujets qui ont été abordés, mais aussi pour m'assurer que je ne répète pas des choses qui ont déjà été dites. Excusez-moi par avance, il y a quelques redondances entre ce que vous avez déjà entendu et ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, j'aimerais bien peut-être d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquer un petit peu d'où je m'exprime ou qu'est-ce qui m'autorise à parler aujourd'hui de la question de l'évaluation des formations et plus précisément des formations d'alphabétisation. Et tout d'abord, en premier lieu, je suis responsable du CERSO, qui est un centre de ressources, qui s'appelle le Centre de ressources pour le social, qui est donc un centre de formation continue à destination des intervenants sociaux, et également un centre de recherche qui est lié à la catégorie sociale de la Haute École Louvain en Hainaut. Et donc, dans ce cadre-là, je suis amené assez régulièrement, dans le cadre du volet recherche principalement, à procéder à des évaluations de dispositifs d'action sociale, etc., pas spécifiquement de formation en tant que telle. Deuxième élément important, j'ai eu la chance de participer, de réaliser, en collaboration avec mon collègue Bernard Fusulier, une évaluation des politiques et dispositifs d'alphabétisation en Belgique francophone, en 2012, sous le pilotage rapproché, notamment du comité de pilotage permanent sur l'alphabétisation des adultes. D'ailleurs, si cela vous intéresse, le rapport est en ligne sur le site de l'Observatoire des politiques culturelles. Puis enfin, ça fait plusieurs années que je m'intéresse de manière plutôt théorique sur la question des tensions de l'évaluation et qui m'a permis d'intervenir à l'une ou l'autre reprise ou de rédiger l'un ou l'autre article sur la question. Alors, la question donc, à laquelle je vais tenter de répondre maintenant, c'est donc, peut-on vraiment évaluer la qualité des politiques de formation en alphabétisation et des formations elles-mêmes ? Alors, le terme « vraiment est chargé de sous-entendus. On pourrait évidemment répondre assez rapidement que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est partiellement faisable, etc. Et donc, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est d'abord, dans un tout premier temps, montrer que l'objet ici qui nous intéresse, l'objet à évaluer, c'est-à-dire les formations en alphabétisation, est un objet très complexe. J'imagine que ça a déjà été dit au cours de la journée. Et ensuite, le cœur de mon intervention consistera à répondre à la question en montrant, mais si on voulait évaluer, si on veut évaluer l'alphabétisation, mais quelles sont les étapes, quelles sont les conditions, je dirais, pour évaluer les formations d'alphabétisation. Et puis à chaque fois, j'essaierai de montrer quelles sont les limites, les difficultés qu'on peut rencontrer à chacune de ces étapes. Enfin, je reviendrai, si le temps me le permet, parce que c'est vrai que c'est une intervention peut-être un peu plus longue que trois quarts d'heure, j'essaierai de réduire, mais de revenir évidemment sur le fait que malgré ces difficultés, malgré ces limites, l'évaluation est évidemment une pratique précieuse que les professionnels, de manière générale, dans le monde du travail social, et plus particulièrement dans le secteur de l'alphabétisation, doivent se réapproprier. Évidemment, vous comprenez bien que mon intention n'est absolument pas de critiquer le principe même de l'évaluation, bien entendu, malgré les risques et les limites auxquels on vous a sans doute déjà attiré l'attention aujourd'hui, mais plutôt d'attirer l'attention effectivement sur des tensions et des risques. Alors d'abord, je voudrais commencer donc par ce préalable-là, sur la complexité de l'objet qu'on essaye aujourd'hui d'évaluer. Alors, je voudrais commencer par cette citation de Bernard Lahire, qui peut-être vous a déjà été citée aujourd'hui, donc excusez-moi par avance, non? D'accord. On est dans autre chose. Ça va alors, tout va bien. Pas de souci alors à ce niveau-là. Donc Bernard Lahire, qui dans un ouvrage au titre quelque peu provocant qui s'appelle « L'invention de l'illettrisme », dit ceci. « Les pratiques d'écriture et de la lecture ne se limitent pas à quelques situations bien délimitées, mais sont presque coextensives à l'ensemble des pratiques sociales. » Tout simplement pour dire qu'en fait, ces compétences de base de la lecture, de l'écriture, etc., sont mobilisés par nous tous dans notre vie quotidienne, dans de multiples sphères de la vie sociale. Et ça, évidemment, les acteurs, les opérateurs de l'alphabétisation, ils l'ont évidemment bien compris depuis longtemps. Et lorsqu'ils mettent en œuvre des actions d'alphabétisation, ils proposent aussi d'autres types d'actions afin de faire un lien entre l'acquisition de compétences lexicales et oratoires et aussi, je dirais, l'atteinte de certains objectifs autres tels que l'insertion professionnelle, j'imagine qu'on en a parlé aujourd'hui, l'éducation permanente, l'intégration, etc., etc. D'où une forte complexité de l'évaluation, puisque ce que je sous-entends, c'est qu'elle ne devrait pas se contenter d'évaluer les compétences en lecture et en écriture des bénéficiaires, mais surtout d'évaluer en quoi ces compétences leur sont utiles et sont mobilisées pour leur développement personnel, professionnel, social, etc. Je rappelle, et vous le savez bien, que la définition de l'analphabétisme fonctionnel telle que l'UNESCO l'avait déjà proposée en 1978, qui dit que l'analphabétisme fonctionnel, c'est la situation d'une personne qui ne peut se livrer à toutes les activités qui requièrent l'alphabétisme, aux fins d'un fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté, et également pour son propre développement. Donc ça sous-entend qu'une personne peut être scolarisée, avoir les compétences de base telles que les compétences acquises à l'issue du certificat d'études de base, par exemple, mais être tout de même, malgré tout, en difficulté dans la vie quotidienne en raison de l'évolution du contexte social, du contexte notamment professionnel, par exemple, l'invasion dans les multiples sphères de la vie des nouvelles technologies de la communication qui nécessitent une maîtrise de l'écrit et de la lecture. Donc ça sous-entend, je l'ai déjà dit, qu'évaluer les compétences ne suffit pas pour évaluer l'alphabétisation, les compétences en lecture et en écriture. Elle ne suffit pas pour savoir si, effectivement, la formation a atteint ses objectifs. Plus récemment, on parle de littératie, un autre concept pour approcher les compétences lexicales et en lecture et en écriture des individus. C'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail, dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. On voit bien là aussi que l'évaluation doit articuler de multiples effets qui vont bien au-delà l'acquisition des compétences en lecture et en écriture. Donc, ce que je veux dire par ici, c'est que le problème social tel qu'il est défini de l'analphabétisme doit se comprendre en regard du contexte dans lequel ce problème s'inscrit. Ça montre bien que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, n'a de sens qu'en rapport avec les objectifs de vie propres aux bénéficiaires. Et donc ça, je le disais, les opérateurs de formation et autres qui développent des activités d'alphabétisation l'ont bien compris et proposent une approche holistique du problème, c'est-à-dire qui prend en considération le bénéficiaire dans sa totalité, dans sa globalité. Qui, en étant bien conscient que les problèmes rencontrés par les bénéficiaires, dont le fait de ne pas savoir correctement lire ou écrire, sont articulés, interconnectés à d'autres problématiques, évidemment, qu'il faut aussi travailler. Alors, un autre élément de difficulté, en tout cas qui montre que l'objet est complexe à évaluer, c'est que finalement, si on veut évaluer l'alphabétisation, il y a différents niveaux d'évaluation. En fait, on pourrait s'intéresser d'abord à la mesure de la réalisation, des réalisations. Je reprends ici des extraits d'un petit rapport très intéressant d'Anaïs Périlleux et Marc Nissens, j'ai eu l'occasion de participer, pas plus tard qu'il y a une semaine, à un colloque sur l'évaluation de l'impact social des entreprises à profit social. C'était vraiment très intéressant, donc je m'en suis partiellement inspiré pour la présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Mesurer la réalisation, c'est mesurer la quantité de la production de biens et de services qui ont été produits par l'entreprise sociale considérée. C'est par exemple savoir combien d'heures d'alphabétisation ont été prodiguées. Et alors je me réfère par exemple au rapport intéressant dont on a certainement parlé aujourd'hui, qu'Antoine Darratos vous a présenté aujourd'hui, concernant l'évaluation de la qualité telle qu'elle est prônée par l'Europe. Alors, par exemple, quand l'Europe situe les pays, il y a un schéma dans le rapport, les pays par rapport au taux de participation des adultes aux formations tout au long de la vie, eh bien là, on parle en fait de ce niveau de réalisation, c'est-à-dire que on sait combien d'adultes sont touchés par des actions de formation tout au long de la vie, et plus spécifiquement d'alphabétisation, mais cela ne dit absolument rien des effets de cette participation à des formations d'alphabétisation. Et cela ne dit absolument pas si la formation a atteint ses objectifs. À part de savoir peut-être qu'il manque des places, qu'il manque des accès pour les bénéficiaires, pour les personnes qui auraient besoin d'une formation. Alors un deuxième niveau qui est peut-être déjà un peu plus complexe, c'est la mesure des résultats. C'est ce qui nous intéresse peut-être un peu plus. C'est-à-dire les indicateurs de changement observés de l'état des bénéficiaires directs, c'est-à-dire les bénéficiaires des formations. Alors là, j'ai choisi de distinguer trois niveaux en ce qui concerne l'alphabétisation. Le premier niveau, c'est l'augmentation des capacités, des compétences de base, des capacités en lecture, en écriture. Bon, ben, là, c'est évidemment une évidence, c'est de savoir est-ce que la personne, à l'issue de la formation, a augmenté ses capacités en lecture et en écriture. Alors, de manière générale, quand on veut évaluer une formation, c'est vrai qu'on peut s'intéresser à la satisfaction des participants. Bon. On peut s'intéresser à savoir est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce qu'ils ont des nouvelles compétences? Ok. Mais alors, un troisième niveau, c'est de savoir est-ce que ces compétences, ces nouveaux savoirs, leur sont utiles dans leur vie de tous les jours et notamment dans leur vie professionnelle. Moi, en tant que responsable du CERSO, l'évaluation de la formation, c'est de savoir si les personnes, ok, elles peuvent être satisfaites de la formation, elles peuvent avoir appris des choses. Et puis constater que ça ne leur est d'aucune utilité une fois qu'elles sont sur le lieu de travail, par exemple. Ça fait partie aussi de l'évaluation. Alors c'est sûr que ce niveau 2, au niveau de l'alphabétisation, on peut imaginer aisément que améliorer ses compétences en lecture et écriture ont une utilité directe dans la vie quotidienne. Pensons par exemple à la personne qui va faire ses courses et qui peut, grâce à ses compétences en lecture, en écriture, mieux déchiffrer les prix, le coût des différents produits qu'elle pourrait acheter, ou alors vérifier les ingrédients qu'il y a dans tel ou tel aliment qu'elle souhaiterait acheter, vérifier qu'il n'y a pas des ingrédients allergènes, des choses comme ça. Bref, elle voit tout de suite, immédiatement, l'utilité de ça. Maintenant, un troisième élément, c'est de savoir est-ce que le fait d'avoir développé des compétences en lecture et l'écriture permet d'atteindre des objectifs personnels. Par exemple, s'inscrire à une formation, par exemple, aider ses enfants dans leur scolarité, etc. Et de savoir aussi si ça leur permet de mieux s'adapter, je dirais, puisque c'est quand même ça aussi dans quoi on est. De mieux s'adapter au contexte et aux exigences de la vie en société, dans la société d'aujourd'hui, qui contrairement à peut-être à celle d'il y a 50 ans, est beaucoup plus demandeuse de compétences en lecture, en écriture, etc. Donc, il y a trois niveaux. Et vous voyez bien que plus on avance dans les niveaux, plus l'évaluation est complexe, est vraiment difficile. Enfin, un troisième élément, et là on arrive à quelque chose de beaucoup plus général, c'est la mesure d'impact social. Mesure d'impact social, c'est-à-dire arriver à évaluer la valeur ajoutée des activités de l'entreprise sociale, d'évaluer l'impact de l'activité d'une entreprise sociale. Ça revient à comparer la situation des individus qui ont bénéficié de cette activité avec leur situation s'ils n'en avaient pas bénéficié. Alors vous imaginez là que c'est un fameux défi, parce que la personne, une fois qu'elle a bénéficié, par exemple, d'une formation d'alphabétisation, elle n'est plus la personne qui n'en a pas bénéficié. Donc on ne peut pas avoir les deux. On peut pas, c'est pas possible d'avoir les deux. Évidemment, il y a des méthodologies qui permettent de pouvoir mesurer cet impact social. Mais donc là, on est dans quelque chose de plus général, de savoir est-ce que finalement toutes ces actions, ces dispositifs permettent d'améliorer, par exemple, la situation socio-économique des bénéficiaires, d'améliorer leur bien-être, leur estime d'eux-mêmes, leur employabilité, d'améliorer l'égalité des chances, l'accès aux droits, l'implication citoyenne, tous des effets à plus long terme, également des effets qui profitent à l'ensemble de la société. Mais là, vous comprenez qu'on arrive à un niveau d'évaluation d'une complexité extrême. Alors, maintenant, je vais rentrer dans les conditions. Si, maintenant, imaginons, on veut évaluer ensemble l'impact de l'alphabétisation. La qualité, on est plutôt dans la question de la qualité des formations d'alphabétisation. Alors, il me semble, à partir de ce que j'ai pu lire, parcourir, etc., que pour envisager d'évaluer, il faut d'abord pouvoir identifier les effets qu'on veut mesurer. Ensuite, on doit sélectionner les effets qu'on souhaite mesurer. Ensuite, il faut établir des indicateurs adéquats de ces effets. Et puis, on doit construire une méthodologie pertinente pour récolter et analyser les données. Alors, je vais présenter à chacun de ces niveaux en quoi ça consiste, et puis montrer les difficultés et les limites. Alors, la question de l'identification des effets à mesurer, ben là, j'ai pu m'appuyer sur des études qui ont déjà été réalisées, notamment au sein de Lire et Écrire. Je pense à l'étude coordonnée par Anne Godenier en 2010 et qui identifie une multiplicité d'effets constatés sur le terrain, d'effets sur la vie des bénéficiaires d'actions d'alphabétisation. Alors, évidemment, une première catégorie d'effets, elle est bien connue, c'est l'acquisition de compétences de base en lecture, en écriture, en calcul, etc. Là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ce qu'elle démontre, cette étude, c'est aussi qu'il y a des effets à trois autres niveaux, trois autres catégories de niveaux, des effets en matière d'intégration sociale, des effets en matière de participation citoyenne, des effets en matière d'insertion professionnelle. Alors vous connaissez, au niveau de l'insertion professionnelle, c'est par exemple des effets par rapport à l'accès à l'emploi, l'impact au niveau des conditions d'emploi, l'accès à d'autres formations qualifiantes, etc. Au niveau de la participation citoyenne, c'est des effets sur la propension à l'engagement citoyen, à l'accès à certains droits sociaux, à l'implication parentale, je le disais tout à l'heure, dans la scolarité des enfants, etc. Au niveau de l'intégration sociale, on est plutôt dans des effets au niveau des relations sociales, de l'intégration par exemple dans le quartier, des relations amicales et familiales, la question de la multiculturalité, etc., etc. Et donc on peut dire, hein, à travers ce schéma, que l'acquisition de compétences en lecture et en écriture peut avoir des effets bénéfiques à ces différents niveaux. Toutefois, une évaluation. Donc vous voyez qu'évidemment on est dans un schéma très très complexe d'évaluation ici, puisqu'il y a vraiment énormément de facteurs à mesurer. Or, l'évaluation en général ne prend pas compte, alors je dis ne peut pas prendre en compte, l'ensemble des effets possibles. En tout cas, souvent, on choisit de ne pas prendre en compte l'ensemble des effets possibles, parce que, eh bien, on est en général dans une évaluation cloisonnée, Pourquoi? Parce que, en tant, par exemple, qu'opérateur d'alphabétisation, on évalue ces actions pour rendre notamment des comptes au pouvoir subsidiant, ou alors pour voir si on atteint bien les objectifs et les missions qu'on s'est donné en tant qu'institution. Et ces missions, elles sont évidemment sectorisées, c'est-à-dire elles sont liées à un secteur particulier. On le disait tout à l'heure, l'insertion professionnelle, par exemple, d'un côté, ou alors la cohésion sociale de l'autre, ou l'éducation permanente, etc., etc. Et donc c'est quelque chose d'assez normal, je veux dire, la manière dont l'action publique et l'action politique est menée, c'est elle a été, dès le départ, sectorisée, quoi. C'est une façon de rendre opérationnelle l'action publique. Or, évidemment, beaucoup d'auteurs et évidemment beaucoup de professionnels aussi se rendent compte que ce n'est pas opérationnel sur le terrain. Ça sous-tend une vision fragmentaire de l'homme qui pourrait ne s'intéresser, par exemple, qu'à sa vie professionnelle, sans prendre en compte le reste des dimensions de sa vie, alors qu'on sait bien que les différentes dimensions de la vie sont interconnectées. En plus, les problèmes sociaux sont aussi interconnectés. Il y a une logique systémique. Les usagers articulent de multiples problématiques qui se renforcent mutuellement. On l'a vu, les effets de l'alphabétisation sont multiples et de différentes natures, mais l'évaluation nécessite de réduire la complexité, de se focaliser sur un nombre limité d'effets, de simplifier la réalité. Donc il faut sélectionner les effets. Alors, je ne critique pas le fait de sélectionner des effets, parce que c'est vrai que d'un autre côté, faire un outil d'évaluation qui prétend couvrir l'ensemble des effets possibles d'une action, c'est en faire un outil peut-être exhaustif, mais hyper difficile ensuite à utiliser pour, transformer, faire évoluer ses actions. C'est un outil, du coup, très complexe. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien de sélectionner les effets, mais en tout cas, dans les faits, sur le terrain, c'est en général ce qu'on fait. Alors, cette sélection, elle n'est pas neutre, évidemment. Ce que Durand dit, par exemple, c'est que c'est une activité politique de hiérarchisation de ses objectifs, de mise en lumière de certaines chaînes causales et pas d'autres. Et quand on propose, c'est ce que nous avions notamment fait pour l'évaluation des politiques d'alphabétisation en Belgique francophone, quand on propose de faire une analyse cognitive de l'évaluation, on se rend compte que l'évaluation, elle met en lumière des valeurs, des présupposés concernant, concernant ce qu'est une vie, une bonne vie, hein, ce que sont les valeurs à soutenir dans la société, mais donc concernant les finalités qui sont prioritaires, finalités prioritaires de l'action sociale. Ce qu'on peut lire aussi, c'est que l'évaluation participe à construire des cadres d'interprétation du monde. L'évaluation, elle en vient à dire ce qu'est le travail réalisé par les professionnels. Elle construit des interprétations du réel. Elle définit des modèles normatifs d'action. Donc, on imagine bien que ça peut générer des tensions entre acteurs porteurs de finalités différentes. Par exemple, un acteur porteur de la finalité de l'insertion professionnelle, en disant l'important, comme semble, je lisais dans le rapport d'Antoine Daratos, après la crise financière qui a touché les pays en Europe, eh bien, l'Europe a décidé de mettre, en second plan les objectifs de citoyenneté, etc., pour mettre en premier plan l'insertion professionnelle, la mise à l'emploi, etc. Évidemment, ça peut générer des tensions entre un acteur qui soutient ce type d'approche et un autre qui dit non, l'important, c'est peut-être de travailler cette citoyenneté qui, de manière indirecte, servira à l'insertion professionnelle. Mais c'est un débat, j'oserais dire peut-être un peu stérile. Ce débat, en fait, qui est finalement, schématisé de ce type-là, il y a des cloisons entre les différentes catégories d'effets. Alors qu'en réalité, ce qu'on a pu, à partir d'études qui avaient déjà été réalisées, mais qui ont été confortées par notre étude, mais c'est que finalement, ce qui revient partout, et ce qui revient encore maintenant dans d'autres champs de la sphère sociale, c'est que les effets qui sont souvent non considérés, c'est les effets sur et c'est d'ailleurs une des catégories que Anne Godner avait mis en lumière, les effets sur le développement personnel, sur la transformation identitaire, sur l'estime de soi, etc. Et alors on avait proposé ce schéma-ci, c'est-à-dire que finalement, à travers l'acquisition de compétences de base, et à travers la médiation par le développement personnel, il y avait une interconnexion des catégories d'effets. C'est-à-dire, même, j'ai mis en vert, parce qu'il y a toujours cette médiation par le développement personnel, le fait, par exemple, d'évoluer, de progresser dans une des catégories d'évolution, permet de manière indirecte, ou en tout cas favorise de manière indirecte, une amélioration dans les autres sphères. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on peut faire, et c'est à partir de discours de professionnels, de discours aussi d'usagers, qu'on peut dire ça. Mais alors, ce qui est inquiétant, et là je reviens au rapport d'Antoine Daratos, ce qui est inquiétant, c'est lorsque justement, il semble que, suite à la crise financière, par exemple, hein, et bon, c'est quelque chose qu'on peut lire également dans notre pays, mais les priorités, elles mettent de côté, je le disais, les principes de citoyenneté active, par exemple, pour mettre plutôt en avant les enjeux plus pressants pour les États membres, dit-il, qui sont de répondre aux besoins de l'économie, de trouver des solutions à la hausse rapide du chômage des jeunes. Alors moi, ce qui m'inquiète, ce qui vous inquiète sans doute aussi, hein, quand on voit ça, c'est tout d'abord que, en se focalisant sur une des catégories d'effets, on met de côté les nombreux autres objectifs, les nombreux autres catégories d'effets qui sont ceux qui font sens pour les bénéficiaires, pour les adultes bénéficiaires, qui donc sont des facteurs de motivation à l'apprentissage. Tels que, donc, je le disais, la citoyenneté active, la prise en charge de son rôle parental, l'intégration, l'estime de soi. Deuxièmement, ce qui est inquiétant, c'est que se focaliser là-dessus fait qu'on ne prend pas conscience, on ne prend pas en compte le fait que les objectifs qui sont considérés comme secondaires ou périphériques, comme voilà, travailler la citoyenneté, travailler l'éducation permanente, etc., peuvent servir indirectement leurs objectifs prioritaires. C'est-à-dire que les domaines de la vie étant interconnectés, on ne peut pas cloisonner uniquement l'action sur des objectifs d'insertion professionnelle sans prendre en compte la situation globale des individus dans d'autres domaines. Par exemple, l'accès au logement, l'estime de soi, la parentalité, la vie sociale et citoyenne, etc. Et donc le risque, c'est que non seulement on ne perçoit plus les évolutions des personnes dans ces matières, puisqu'on occulte certaines dimensions, mais en plus, on perd l'effet positif de travailler ces dimensions-là, et l'effet positif de ces dimensions sur, éventuellement, leur future insertion professionnelle. Enfin, il y a le risque, déjà soulevé aussi par Antoine Daratos dans son rapport, les biais de sélection, c'est-à-dire que si on veut répondre aux attentes de l'Union européenne, par exemple, ou de nos pouvoirs subsidiants en matière d'emploi et d'insertion professionnelle, les institutions risquent de prioriser leurs actions sur les publics qui sont plus proches de l'emploi, par exemple, qui augmentent la probabilité, je dirais, de maximiser le score, d'avoir un bon score, d'être évalué positivement. Et puis alors, comme le dit également Antoine Daratos dans son rapport, suite aux attentats, eh bien, on modifie les déclarations et on réintroduit l'importance de la question de l'intégration, de la promotion de l'équité, des compétences, etc. Et donc on voit que, assez rapidement, les déclarations politiques, je dirais, peuvent modifier les finalités. Mais si on revient sur le terrain, si on part des attentes, des objectifs des bénéficiaires d'actions d'alphabétisation, l'ensemble des finalités sont toujours représentées, quel que soit, je dirais, le contexte. Et donc, quelles que soient les priorités politiques de l'Europe, l'alphabétisation, elle continue dans les faits à répondre à l'ensemble de ces finalités. Et donc, il me semble que les prioriser, le simple fait de prioriser, n'a pas de sens, car elles sont interconnectées. Voilà, donc ça, c'est déjà, ça vous montre déjà la difficulté de pouvoir évaluer cette action, de pouvoir sélectionner les effets souhaités sans mettre de côté des effets importants. Ensuite, on va devoir, deuxième étape, hein, définir des indicateurs. Alors là, je vais pas trop m'apesantir là-dessus. Simplement dire que, voilà, par exemple, des indicateurs de l'acquisition des compétences de base, mais oui, ça peut être assez facile à faire. On fait un test à l'entrée, à la sortie des bénéficiaires, on voit s'ils ont amélioré leurs compétences. Des indicateurs d'insertion professionnelle, oui, là aussi, on peut faire ça assez. En tout cas, on peut avoir l'illusion ou le croire que c'est facile en regardant le critère d'accès à l'emploi. Est-ce que la personne a accédé à un emploi? Est-ce qu'elle s'est inscrite à une formation qualifiante, etc. Dans les autres domaines, la participation citoyenne, oui, on peut aussi évaluer le degré d'engagement dans des projets citoyens, culturels, politiques. Au niveau de l'intégration sociale, est-ce que la personne connaît bien les services locaux, les codes culturels, etc. Et puis enfin, au niveau de l'évolution de l'identité personnelle, est-ce que la personne a le sentiment d'avancer, est-ce que son estime de soi a augmenté, etc. Bon, tout ça. Je veux dire, on peut trouver, imaginer des outils pour l'évaluer. Mais il y a, vous le voyez, des indicateurs qui sont plus objectifs, plus factuels. Hein, voilà. On a un emploi ou pas, on sait lire un texte de 10 pages ou pas, enfin bref. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subjectifs. Je pense notamment à l'estime de soi. Je pense notamment au sentiment, à la confiance en l'avenir, etc., etc. Et puis des indicateurs aussi qui sont un peu plus difficiles à mesurer. Le degré d'engagement dans des projets citoyens, etc. Oui, il y a des éléments objectifs, mais enfin, on est quand même dans une certaine complexité. Et donc, certains sont faciles à récolter, d'autres ne sont pas faciles. Et le risque auquel on est confronté, c'est de sélectionner finalement les effets à partir des indicateurs qui sont faciles à récolter. Et ce que la littérature sur l'évaluation montre souvent, c'est le risque de consacrer la part belle, et ça j'imagine qu'on vous l'a dit aujourd'hui, la part belle aux indicateurs quantitatifs. Il y a cette préoccupation-là de pouvoir quantifier, de pouvoir mesurer évidemment l'impact du travail social, des actions sociales, de l'alphabétisation, etc. Et donc, selon Salet, voilà, une approche quantitative, ça veut dire qu'on réduit un phénomène social à des données quantifiées. Bon. Alors, ce n'est pas, non, il ne faut pas non plus dire qu'il faut rejeter toute approche quantitative. Il me semble que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on favorise ce type d'approche, que c'est une manière de mesurer dans une optique de comparaison dans le temps. C'est vrai que quand on veut évaluer, on veut pouvoir comparer dans le temps. Est-ce que les résultats sont meilleurs qu'hier? Mais aussi dans l'espace. Est-ce que les résultats sont meilleurs qu'ailleurs? Mais il y a des risques. Il y a des risques liés à l'évaluation quantitative. Par exemple, le risque, c'est qu'en sélectionnant des indicateurs quantifiables, on va occulter tout ce qui n'est pas quantifiable. Et tout ce qui n'est pas quantifiable va être dès lors taxé d'illégitimité ou carrément ne pas exister, disparaître presque aux yeux des personnes. Ce que Delphine Serre dit, c'est que ça génère une hiérarchie symbolique des tâches, c'est-à-dire qu'on va accorder plus de valeur à ce qui est quantifiable par rapport à ce qui ne l'est pas. Ce que De Gaulle-Jacques dit, déjà en 2009, il disait le risque de quantophrénie, c'est quoi? C'est qu'au lieu de mesurer pour mieux comprendre, le danger, c'est de vouloir comprendre que ce qui est mesurable. Alors, notre risque aussi, c'est de savoir finalement qui va définir ces indicateurs. Qui va les définir? Est-ce que ce sont les professionnels? Est-ce que ce sont les usagers, les bénéficiaires? Est-ce que ce sont les pouvoirs subsidiants? Est-ce que c'est l'Union européenne, etc., etc. Et donc, dans la littérature, on peut voir qu'il y a deux grands paradigmes. C'est soit une définition top-down, c'est les pouvoirs ou je dirais les personnes qui financent les actions qui ensuite définissent les modalités d'évaluation. Ou alors bottom-up, c'est plutôt les personnes sur le terrain, qui connaissent bien le terrain, qui vont définir. Alors là, il y a des avantages et des inconvénients des deux. Et donc à l'issue de ça, je ne vais pas trop creuser, parce que je vois que le temps avance, ce qui est évidemment prôné dans la plupart des articles que j'ai pu lire, c'est évidemment une évaluation participative qui permette de croiser les regards, les enjeux de l'ensemble des protagonistes. Maintenant, on va. Donc, vous avez vu, on a fait les effets, la sélection des effets, les indicateurs. Imaginons qu'on a nos indicateurs. Et c'est là qu'on arrive vraiment à quelque chose de très compliqué. Il faut construire une méthodologie pertinente de récolte et d'analyse des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils permettent réellement d'assurer la causalité, de s'assurer de la causalité. C'est-à-dire que le changement qu'on a pu observer chez la personne, elle a développé ses compétences, elle a amélioré sa situation socio-économique, etc. Est-ce qu'elle est bien induite par l'activité évaluée? Oui, par l'activité évaluée. Pour vraiment pouvoir s'assurer de la causalité, et je vous dis, c'est un défi, il faut pouvoir éviter trois types de biais. Les biais de la simultanéité d'événements, les biais de sélection et les biais de durée des effets. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La simultanéité des événements, c'est le fait que quand on veut évaluer l'impact d'une action sur l'évolution d'une personne, c'est très difficile d'isoler les effets propres de cette action sur l'évolution de la personne. Parce qu'il y a évidemment eu d'autres événements, d'autres phénomènes qui ont pu aussi jouer sur l'évolution de la situation de la personne. Par exemple, la conjoncture macroéconomique. Je prends un simple exemple. Une entreprise de formation de chômeurs de longue durée peut afficher un taux de retour à l'emploi plus élevé grâce à une amélioration de la conjoncture, sans que la qualité de ces formations ne soit modifiée. Et donc, si on compare deux institutions de formation pour chômeurs, une dans une région à grande difficulté socio-économique et l'autre dans une région plus prospère, ben, c'est sûr qu'ils ne vont pas avoir, et imaginons qu'ils font exactement le même travail, ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Il faut donc pouvoir estimer dans quelle mesure l'effet qu'on a observé est induit vraiment par l'activité de l'entreprise et pas par un autre phénomène survenant en même temps. Deuxième biais, les biais de sélection. J'en ai déjà un peu touché un mot. C'est le fait que les résultats obtenus peuvent être davantage dus aux caractéristiques des bénéficiaires plutôt qu'à l'action réellement menée par l'entreprise sociale. Je reviens avec l'exemple des chômeurs, d'une entreprise de formation de chômeurs. Elle pourrait afficher un taux de retour à l'emploi plus élevé si elle cible des personnes qui sont moins éloignées de l'emploi, sans pour autant que la qualité de ces formations ne soit modifiée. D'ailleurs, c'est un des effets pervers que j'ai souligné tout à l'heure, de certains types d'évaluation qui seraient imposés d'en haut et qui s'apparentent plus à du contrôle, et sur base duquel alors la pérennité de l'institution ou de l'association est mise en jeu. Eh bien, c'est le risque bien compréhensible, hein, loin de moi l'envie d'accuser qui que ce soit, mais c'est le risque d'orienter l'action vers les publics qui sont les plus proches des objectifs à atteindre, selon l'évaluation, plus selon les missions d'institution. C'est ce qu'on appelle le détournement des buts de l'organisation. C'est Mintzberg qui disait déjà ça à son époque. Et puis enfin, les biais de durée des effets. Ben c'est vrai que la question de l'évaluation pose la question de la temporalité. Combien de temps dure l'effet de l'activité menée? C'est sûr que ce qu'on souhaite en tant qu'opérateur, en tant que travailleur social, etc., c'est que les effets soient durables. Donc évaluer l'action juste à l'issue de l'action, c'est intéressant, mais ça ne nous dit pas si un an après, 2 ans après, la personne a effectivement pu continuer à rester dans une bonne situation. Mais le risque, si on veut évaluer à long terme, c'est que les fameux biais de simultanéité d'événements vont être d'autant plus présents, parce que la probabilité que d'autres événements aient pu intervenir dans l'évolution de la personne est plus élevée. Mais on sait bien que pour ce qui est de l'alphabétisation, ce qui est vraiment précieux, crucial, c'est les effets à long terme. Alors, je viens donc mais peut-être que je serais intéressé d'avoir vos réactions, évidemment, pour voir si vous n'avez pas à l'esprit peut-être des solutions, des pistes pour dépasser ces limites. Donc, je viens d'un peu insister sur les limites, les difficultés très fortes d'évaluer. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Être conscient des limites, c'est très, très, très important. Dans toute démarche d'ailleurs, d'action sociale et d'évaluation. Mais je voudrais terminer en insistant sur l'importance de cette action d'évaluation, qui est un outil précieux à se réapproprier. Pourquoi? Parce que je sous-entends, 5 minutes, tout à fait. Je sous-entendrai que peut-être, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des professionnels aussi qui le disent, peut-être qu'à un moment donné, en tant que professionnel, on a délaissé cette activité d'évaluation je dirais, aux autorités. On n'a plus considéré que ça faisait partie de nos missions. J'avais entendu ça d'ailleurs dans une journée d'émissions locales, et c'est réapparu dans le livre blanc des missions locales à Bruxelles. 4 niveaux d'intérêt. L'évaluation importante pour la conduite, l'orientation et la légitimation des politiques, pour la gestion, l'orientation et la légitimation des dispositifs d'action, pour la professionnalisation, la reconnaissance des opérateurs et des praticiens, et puis enfin pour les bénéficiaires aussi de l'action menée. Alors, je vais peut-être aller vite puisqu'il me reste 3 minutes. On est d'accord que évaluer permet de mieux gérer une institution, donc de détecter les dysfonctionnements, etc., de légitimer les actions, parce que combien de fois on ne nous dit pas, ou un intervenant social ne m'a pas dit, mais on n'arrête pas de me demander à quoi je sers, à quoi sert mon travail. Et puis d'orienter. À un moment donné, on fait le point, après 5 ans, après 3 ans, voilà l'évaluation, on va pouvoir réorienter nos actions. Ensuite, pour les professionnels eux-mêmes, c'est très important parce que ça leur permet de prendre conscience de leurs compétences et aussi des limites de leur travail, de réfléchir sur leur pratique. Il n'y a rien de mieux que d'évaluer la pratique pour réfléchir sur la pratique, de solidifier la définition de l'action menée, de préciser les rôles et identités de chacun. Et puis ça contribue à la reconnaissance aussi des professionnels. Et puis enfin, pour les bénéficiaires, et c'est particulièrement important dans l'alphabétisation, ça leur permet eux-mêmes de savoir dans quel jeu ils jouent finalement, qu'est-ce qu'on attend de moi, quels sont les objectifs que je dois atteindre. C'est motivant de voir qu'on progresse, évidemment. Et puis, si on fait une évaluation participative avec les usagers, ça nous permet de prendre en compte leurs besoins et de leur donner la possibilité de participer et de s'exprimer. Donc voilà, vous avez compris que j'insiste bien sur l'importance de se réapproprier l'évaluation. Je citerai simplement cette phrase que j'avais d'ailleurs reprise dans le journal de l'Alpha. Il faut attester de la qualité des services réalisés avant que des normes de qualité ne soient imposées d'en haut. Voilà, je vous remercie. Désolé pour la précipitation finale et je suis évidemment disponible pour toute question.